Bonjour et bienvenue. Cinquième émission des Rendez-vous du droit. Nous abordons aujourd'hui le sujet des normes individuelles. Les normes individuelles qui sont les grandes oubliées des introductions au droit privé, qui dissertent assez longuement et à juste titre sur les normes générales, sur la loi, sur les règlements, mais qui parlent moins des normes individuelles, les jugements, les contrats, qui sont souvent relégués à des dispositifs de simple application, de mise en œuvre des normes générales. Eh bien, nous allons montrer aujourd'hui que ces normes individuelles sont des normes tout à fait essentielles. Ce sont des normes, je dirais, en pratique les plus importantes. Et ces normes ne sont pas, nous allons le voir, loin s'en faut, une simple application de normes générales. Alors, pour évoquer ce sujet difficile, comme tous les autres d'ailleurs, bien, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné. Et je suis accompagné de vous, Emmanuel, notamment. Qui êtes-vous? C'est la première fois
Bonjour,
qu'on vous voit.
c'est la première fois. Bonjour, je suis avocat au barreau de Paris.
Ah, ça c'est bien.
Depuis maintenant 5 ans, j'ai une spécialisation en contentieux civil et commercial avec une dominante en droit immobilier. Et je suis également un étudiant issu de Paris 1, puisque j'ai fait deux Master 2, notamment un premier Master 2 en théorie et pratique du procès et un second en droit privé général.
Bon, elle est formidable, nous allons avoir l'expérience, le retour de la pratique pour évoquer des sujets infiniment pratiques. Alors, Marie, vous n'êtes pas une praticienne, mais alors, nous vous connaissons, mais dites-nous, rappelez à nos auditeurs qui vous êtes et pourquoi vous êtes là aujourd'hui.
Tout à fait. Alors moi, je suis Marie, je suis doctorante à l'Université Paris 1 et je reviens dans les rendez-vous du droit en tant que fiscaliste pour vous donner quelques exemples propres à ma matière.
Eh bien, merci beaucoup, parfait. Tout de suite, nous allons commencer par les questions que vous vous posez. Les questions que vous vous posez, on commence par le plus simple. Les normes individuelles se distinguent des normes générales. Cette distinction, nous l'avons évoquée dès les toutes premières heures d'enseignement, et pourtant, elle est toujours difficile à manier. Alors, il y a des choses qui sont simples, d'autres qui sont compliquées. Petit jeu, exemple de normes générales, Marie.
Comme norme générale, on veut prendre le fameux article 1240 du Code civil, ancien article 1382. Pour vous le lire, on peut dire: tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Voilà. Voilà, c'est pourquoi la norme générale, il n'y a aucun doute là. C'est
Aucun doute.
En tout temps, en tout lieu. Alors, une norme individuelle, facile.
Un arrêté de nomination, par exemple.
Voilà. Vous avez été nommé ce jour pour participer au rendez-vous du droit. Norme individuelle.
Félicitations.
Félicitations. Je suis l'auteur, oui. Les pouvoirs sont relativement limités. Un peu plus compliqué, nous sommes priés d'évacuer les locaux de Tolbiac maintenant. Vous, moi, tout le monde, ceux qui nous filment, ceux qui nous regardent.
Pour moi, ce serait plutôt une norme concrète.
Une norme individuelle, c'est des choses différentes.
Alors, il est vrai qu'on peut considérer, c'est vraiment une question de terminologie, mais en pratique, on préfère le terme de norme concrète, puisque finalement, là, dans ce cas-là, il est vrai qu'il va y avoir plusieurs personnes qui seront concernées, donc le terme individuel n'est pas toujours très intéressant, mais ici, je pense qu'on... Collectivement, plusieurs personnes vont être concernées, donc on peut parler de normes concrètes.
Voilà, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les normes individuelles peuvent être collectives. Donc, de dire la norme individuelle collective, c'est pas évident à entendre. Donc, dire normes concrètes, là, on comprend mieux. On dit concrètement, tous ceux qui sont dans le local doivent partir. Voilà, ça, c'est aujourd'hui, c'est ici. Voilà, mais ça concerne plusieurs individus. Mais on peut encore raffiner, parce que un exemple que les étudiants vont rencontrer tous les jours, c'est la bibliothèque. Je prends par exemple la bibliothèque Sainte-Barbe, qui est fréquentée par certains de nos étudiants. La bibliothèque Sainte-Barbe ferme à 19h30. Qu'est-ce que c'est comme règle? Est-ce que c'est une norme individuelle? Est-ce que c'est une norme générale? Et il n'y a pas de bonne réponse. Hein.
Non, c'est assez difficile. Bon, on a eu un débat en amont pour savoir sur quel type de norme on faisait face. Moi, je dirais plutôt que c'est une norme qui est relativement générale, parce qu'elle s'applique à tout le monde, et que c'est une norme qui est assez peu abstraite, parce qu'elle est localisée concrètement.
Et vous, Emmanuel, vous feriez la même réponse?
Je suis assez d'accord avec Marie. Je pense qu'on doit pouvoir combiner les deux ici.
Oui, d'accord, vous ne prenez pas trop de risques. Alors, non, c'est intéressant parce que moi, je ferais a priori exactement la réponse inverse de celle de Marie, qui consisterait à dire que la norme n'est pas générale, puisqu'elle ne concerne que la bibliothèque Sainte-Barbe. mais qu'en revanche, elle est abstraite, puisqu'elle désigne une configuration qui est susceptible de se reproduire indéfiniment, c'est-à-dire que tous les étudiants qui se rendront à la bibliothèque Sainte-Barbe seront priés de la quitter à 19h30. Mais encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse en ce sens que, quand moi j'ai donné cette analyse à d'autres juristes, ils m'ont dit, je vous passe l'expression, mais enfin, tu dis n'importe quoi. Et donc, et le raisonnement que vous tenez, on me l'a tenu également. Tout ceci pour dire, et ça c'est important que vous le reteniez bien, il y a des choses qui sont certaines. 1240, c'est une norme générale. Un arrêté de nomination, c'est une norme individuelle. L'ordre d'expulsion, c'est de la norme. C'est une norme individuelle, mais elle nous fait dire qu'il vaut mieux employer l'expression « norme concrète » plutôt que « norme individuelle ». Et après, il faut s'y résoudre. Il y a un autre deux. Il y a un certain nombre de règles qu'on a du mal à classer et qui montrent la complexité du droit. Ben, il faut se faire à l'idée qu'il y a des hypothèses dans lesquelles on n'est pas forcément très, très à l'aise. Alors, ces normes individuelles, et maintenant, on va peut-être plutôt parler de normes concrètes. Pardonnez-nous si de temps en temps, on dit « normes individuelles ». Ces normes concrètes, on l'a dit dès l'introduction, ce sont finalement les plus importantes. Et vous, comme avocat, vous savez de quoi vous parlez.
Vous avez parfaitement raison. En tout cas, dans la pratique professionnelle, normes concrètes, c'est ce qui va vraiment avoir une incidence sur le client. Le client, par exemple, si vous lui évoquez la notion de l'article 1240, la norme de l'article 1240 du Code civil, il n'en a que faire. Lui, ce qui l'intéresse, le client, c'est l'application de cette norme par le juge et la décision qui sera prise par le juge dans sa décision.
Qu'est-ce qu'elle a de si importante ? La décision du juge, norme concrète. Okay. Pourquoi elle est si importante, cette
norme ? Elle est importante à double titre, cette décision, puisqu'elle a autorité de la chose jugée.
Alors, l'autorité de la chose jugée est une notion sur laquelle on peut discuter, débattre, écrire pendant des années et des années et des années. Et ce sont des sujets de thèse, de monographie, etc. Mais il reste qu'en pratique, c'est très utile. En pratique, ça veut dire quoi? Une décision à autorité de chose jugée.
Alors, pour dire les choses simplement, une décision à autorité de la jugée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas refaire le match. Sauf éventuellement à exercer un recours devant la cour d'appel, on ne peut pas refaire le match.
Voilà, donc si on dit, il n'y a pas de session de rattrapage. En gros, si on considère que le procès c'est un combat de boxe, bah, quand le gong a sonné, on ne refait pas le combat. Il y a un gagnant et un perdant. C'est ça que ça veut dire.
Exactement.
Bon, mais ce n'est pas tout. Il y a l'autorité de la chose jugée qu'il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle la force exécutoire.
La force exécutoire. Et la force exécutoire, c'est ce qui va nous permettre d'imposer la décision, mais de la faire exécuter. Il est vrai que si demain vous obtenez une décision de justice et que le juge vous dit bah, « je vous accorde 1000 euros », il va falloir l'exécuter. Et c'est la force exécutoire qui est attachée au jugement qui va vous permettre de l'exécuter.
Oui, concrètement, si celui qui est condamné à payer les 1000 euros ne les paye pas, il dit « je veux pas ».
Il faudra peut-être aller voir un avocat qui vous amènera
à voir un huissier. On a le jugement qui condamne. Alors, le jugement condamne le débiteur à payer 1000 euros et le débiteur dit bah, « moi, la justice, j'en pense le plus grand mal et je ne paierai pas
voilà. ». Il faudrait qu'il fasse appel à un huissier de justice, voilà. À la force publique.
La force exécutoire, c'est que je peux aller voir un huissier et aller saisir le compte de mon débiteur. Les normes individuelles sont plutôt des normes concrètes. Ces normes concrètes sont en pratique, finalement, les plus importantes pour les justiciables. C'est celles-là qu'ils vont mettre en œuvre. Et c'est plus intéressant de dire « j'ai un jugement de condamnation » que l'article 1240 me donne raison, pour dire les choses simplement. Question importante, ces normes concrètes, qui sont finalement les plus importantes, ont-elles les mêmes attributs, la même puissance que les normes générales ? Et la question, on le sait, les normes générales sont dites permanentes. Alors, c'est cet adjectif un peu bizarre qui est, ça veut dire quoi finalement? Parce qu'il n'y a aucune norme juridique éternelle, donc ça veut dire quoi une norme? Que la norme générale est permanente.
Alors la permanence, ça veut dire que, d'une norme générale, ça veut dire que cette norme ne va pas être abrogée par désuétude. Je ne sais pas si vous avez un exemple à donner peut-être à nos auditeurs.
Non, la désuétude, c'est fait. Oui, enfin, on en discutait. L'exemple n'est pas forcément... Il n'est peut-être pas totalement exact, mais il est tout à fait parlant. Sur tous les toits de Paris, nous avons des antennes, relais, etc. Et ces toits sont occupés en vertu d'un mécanisme juridique, pas toujours, hein, mais qui va s'appeler l'amphithéose ou le bail amphithéotique, qui est quelque chose qui a été très peu utilisé pendant des années, au point que, moi, je me souviens de mon cours de droit des biens en 85. On nous disait, c'est pas la peine de vous en parler, c'est un truc qui ne sert pas. Et bien maintenant, ce dispositif juridique prévu depuis des siècles et des siècles est ce qui sert de support au développement d'une technologie qui est plutôt moderne. Bon. Donc la permanence, c'est ça. les normes générales ne disparaissent pas par l'effet de la désuétude, par le fait qu'on ne les applique pas. Alors, est-ce qu'on peut dire la même chose à des normes individuelles, du jugement ?
Si on entend dire la même chose au niveau des normes individuelles, je pense qu'on risque d'avoir des petites surprises. Et oui. La décision de justice qui est rendue, lorsque le juge rend cette pronom, en partant sur l'exemple de l'article 1240, si le juge vous accorde des dommages et intérêts dans le cadre d'une décision de justice, et qui vous accorde 10 000 euros, et que vous mettez, vous, plus de 10 ans...
Là, on est monté, c'était 1 000 tout à l'heure. Les enchères, bon, c'était 10 000, oui.
Et vous mettez plus de 10 ans avant d'aller voir un huissier pour obtenir l'exécution de cette décision, votre décision ne vaut plus rien. Vous pouvez juste l'encadrer.
Ça, je connais quand même des gens qui ont encadré une décision de justice dans l'entretien. Enfin, ils avaient de bonnes raisons de le faire. Ça s'appelle comment, techniquement, le mécanisme, cette espèce d'abrogation du jugement, donc d'une norme concrète par désuétude?
C'est ce qu'on appelle la prescription.
Est-ce que les créances contractuelles se prescrivent également? Parce que prescription, se prescrire. Voilà. Est-ce qu'on a le même mécanisme?
Alors tout à fait. En matière contractuelle, on a également le mécanisme de la prescription. Mais au-delà de ça, les contrats ne peuvent être perpétuels. Il y a une proscription?
Une interdiction
des engagements perpétuels dans le Code civil.
Et la conséquence pratique, parce que est-ce qu'on est toujours obligé de mettre une durée, c'est ça, dans un contrat? Est-ce qu'il y a des contrats sans durée?
Tout à fait, on peut avoir des contrats à durée indéterminée, en matière de droit du travail, les fameux CDI. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'ils ne peuvent pas être rompus.
Et oui, vous savez, ça veut même dire qu'on peut normalement les rompre librement.
Tout à fait. Hein,
on peut en sortir, évidemment. L'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail, le CDI, aussi librement que le salarié le peut en présentant sa DEME, comme on dit. Bon, alors ce qui est rigolo, c'est que... C'est rigolo, c'est pas hyper drôle, mais enfin, c'est... ce qui est amusant, c'est que... Ce qui excite la curiosité, c'est que on explique ce mécanisme de prescription des normes individuelles. Que ce soit le jugement, que ce soit le contrat, on l'explique par des raisons de sécurité juridique. Et on dit que c'est la sécurité juridique qui explique qu'au bout d'un certain temps, la norme individuelle ne vaut plus que d'être encadrée et accrochée au plateau. Et c'est un peu curieux parce que c'est quand même au nom de la sécurité juridique qu'on justifie la permanence des normes générales. Et ça, c'est pas évident, on dit.
Ça peut même sembler tout à fait paradoxal. Oui. Et en fait, c'est justement pour que les individus n'aient pas d'épée de Damoclès qui pèse sur eux en permanence et pendant des durées trop longues, qu'on fait en sorte que les normes individuelles, les normes concrètes, ne sont pas permanentes.
La norme générale ne fait pas peser d'épée de Damoclès. La norme générale, c'est ce qu'on doit respecter dans son comportement individuel pour être conforme.
Tout à fait.
La norme individuelle, c'est un jugement ou une créance qui pèse sur un débiteur. Et donc, ce qu'on dit, c'est que pour des raisons de sécurité juridique, à ce débiteur, passer un certain temps, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.
Et être à l'abri des recours.
Oui. On ne va pas aller chercher un client, un adversaire, 50 ans après, sur une décision qui a été rendue 50 ans avant.
Oui, 50 ans, c'est long. On aurait pu dire 20 ans.
C'était 30 ans avant.
C'était 30 ans, on est passé. Alors, la règle de prescription de droit commun, bon, pour les jugements, c'est 10 ans. Ouais. Pour les créances, c'est 5 ans, en principe. Et on est passé jusqu'en 2008. La prescription était trentenaire. Alors, ces normes individuelles, donc on le voit, elles sont concrètes, elles sont importantes en pratique, elles se prescrivent. Donc ça, c'est une différence assez importante avec les normes générales, qu'elles ne disparaissent pas. La hiérarchie. Est-ce que ces normes individuelles s'inscrivent? Enfin, d'abord, comment se situent-elles dans la hiérarchie des normes? Est-ce qu'elles sont systématiquement en dessous des normes générales?
Alors, par principe, elles sont plutôt en dessous des normes générales. Oui. Mais en fait, on a un certain nombre d'exceptions. Notamment, on se rend compte qu'un juge judiciaire va pouvoir mettre de côté une loi...
Attends, c'est un peu vite, là. Les normes individuelles, les normes concrètes, sont en dessous des normes générales. Alors, déjà, est-ce que c'est vrai? Alors, c'est vrai pour les contrats, c'est vrai pour les actes administratifs, mais ça veut dire quoi, être en dessous?
Ça veut dire qu'elles vont occuper des places inférieures à la Constitution.
Oui, ça c'est sûr, a priori. Mais ça veut dire que les normes doivent les respecter.
Tout à fait. Et oui, ça veut dire qu'une norme, un contrat qui ne serait pas légal, ne respecterait pas la loi, ne serait pas valable.
Et oui, c'est quand même ça, être en dessous, c'est qu'il faut respecter. Si on ne respecte pas, la norme est régulée. Alors, pour le jugement, on dit oui, en principe, le juge applique la règle, donc a priori, il est en dessous. Mais vous me dites, oui, c'est un peu plus compliqué que ça. En quoi la norme jugement est certes en dessous des normes générales, mais qu'il y ait une petite soupape.
Une petite soupape parce que le juge va pouvoir écarter une norme supérieure au jugement qu'il rend en principe, par exemple la loi, pour la faire respecter, pour faire respecter ce qu'il édicte à une norme encore supérieure, donc par exemple un traité ou la Constitution. C'est le cas, par exemple, dans les décisions QPC que vous allez étudier ou que vous avez déjà étudiées.
Ça, c'est oui. Mais là, il y a deux. Oui, là, on rentre quand même. On est toujours sur les questions que vous posez, mais les questions nous amènent vite à de la subtilité. Première chose, le juge judiciaire, n'importe lequel, peut dire j'appliquerai pas cette loi parce que j'estime qu'elle est contraire à telle convention, par exemple la convention européenne dont on parle régulièrement. Et il y a autre chose qui est de savoir quelle est la place dans la hiérarchie des normes de la décision individuelle du Conseil constitutionnel qui vient dire que telle disposition est contraire à la Constitution. Et celle-là, la réponse, là aussi, il n'y a pas forcément de bonne réponse. Et bon, évidemment, si on en parle maintenant, c'est quand on en a parlé tout à l'heure, on va pas se mentir. Mais c'est vous qui avez posé la question, donc vous avez une réponse. Comment vous répondriez à ça?
Eh ben, en fait, on peut garder en tête que lorsqu'un juge va venir abroger, par exemple, une loi, donc si on est dans le cadre d'une QPC, une loi qui serait non conforme à la Constitution...
Le Conseil constitutionnel.
Oui, le Conseil constitutionnel.
Oui, pas n'importe quel juge.
Oui, pas n'importe quel juge. Oui. un juge et pas des moindres, va venir écarter une loi, la considérer comme non conforme à la Constitution. Finalement, la décision QPC qui va être rendue va prendre la même valeur que la loi qui a abrogé.
Oui.
Ce qui me paraît... On pourrait dire ça.
Oui, ce qui me paraît. Donc on voit que la norme individuelle remonte au rang de la norme qu'elle abroge. Alors, l'autre question qu'on s'est également posée et qu'on se pose en pratique, c'est de savoir si au sein des normes individuelles, jugement, contrat, acte administratif, y a-t-il une hiérarchie entre ces différentes normes individuelles, ces différentes normes concrètes?
Il en existe une.
Oui.
Il en existe une, notamment...
dites Emmanuel.
On peut prendre l'exemple du jugement et du contrat, donc le contrat qui est la loi des parties. Le problème ici, c'est que votre contrat n'aura pas la même valeur juridique, si on peut dire ça, qu'une décision de justice.
Oui, pourquoi?
Parce que la décision de justice, elle bénéficie de l'impérium du juge. Et donc finalement,
l'impérium,
c'est un peu la force exécutoire, on l'a déjà dit tout à l'heure.
Mais si c'est bien que l'impérium égale force exécutoire.
Et le contrat, si demain vous signez un contrat avec une autre partie, il n'est pas certain que cette partie exécute ce contrat. Et pour l'obliger à l'exécuter, on a une technique. Nous, les avocats, on saisit un juge pour faire homologuer ce contrat.
On saisit un juge pour faire homologuer, ça veut dire quoi?
Alors, homologuer, ça veut dire donner force exécutoire à un contrat, et même plus précisément, et donc, transaction.
Ça veut dire, ma question, je vends ma voiture, enfin, j'ai plus de voiture, ça sert à rien, pareil, mais je vends ma voiture à... une petite provoque, comme ça, pour passer, mais je vends ma voiture à mon voisin, je suis pas sûr qu'il me paye, donc je vais voir le juge en disant, vous pouvez mettre un tampon pour que ma vente ait force exécutoire?
Non.
Non, alors, non. Bon, donc c'est pas tous les contrats?
Non, c'est pas tous les contrats, c'est des transactions, ce sont... des contrats qui vont venir mettre un terme à une situation litigieuse.
D'accord. Donc, en cas de conflit, on se met d'accord, ça s'appelle une transaction, mot spécifiquement juridique, à ne pas confondre avec le mot transaction dans le langage courant, l'agence immobilière d'en bas qui met transaction immobilière, ça c'est des ventes immobilières, mais nous la transaction, c'est l'accord qui met fin à un contrat. Donc on va voir le juge pour avoir la force exécutoire. Est-ce qu'on est obligé d'aller voir le juge? Il n'y a pas un autre moyen?
Alors non, on peut aller voir quelqu'un d'autre en la personne du notaire.
Eh oui.
Parce que le notaire y conclut des actes authentiques qui ont également force exécutoire.
Ok, donc moi je ne suis pas complètement d'accord sur le fait de dire que le jugement est au-dessus du contrat et de l'acte administratif. Bon, bien sûr, il est plus efficace. Voilà. Il est au-dessus en ce sens qu'il est plus efficace. Mais le juge, malgré tout, ne peut pas, par exemple, en face d'un contrat, dire « celui-là, j'en veux pas, parce que je l'aime pas, voilà, je trouve qu'il est déséquilibré ». Non, le juge ne peut invalider ou ordonner l'exécution d'un contrat que si, préalablement, il a apprécié sa validité au regard d'un ensemble de normes générales, ce qui veut dire que le contrat et toutes les normes individuelles, parce qu'elles sont en dessous des normes générales, doivent respecter les normes générales. Alors, justement, est-ce aussi simple que cela? c'est ce qu'il est temps d'apprécier à travers le droit par l'exemple. Le droit par l'exemple, la question que nous nous posons, c'est les normes individuelles sont-elles la simple application des normes générales ? Réponse, pas tout à fait. Pas tout à fait, et pour s'en convaincre, nous allons raisonner sur un exemple, qui est l'exemple du jugement. Et ce qu'on apprend en tout premier, c'est qu'un jugement prend la forme d'un syllogisme judiciaire, avec pour majeur l'énoncé de la norme générale, pour mineur l'énoncé des faits, et en conclusion, l'effet de la règle qu'on prononce en espèce au bénéfice de la partie qui a le gain du procès. Sauf que, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que cela en pratique. Quand on a, alors on reste plutôt dans la matière civile, on va raisonner sur ce dispositif-là pour l'instant, quand une personne a un conflit avec une autre, elle va chez son avocat. Emmanuel, qu'est-ce que vous lui dites ?
Alors oui, on va recevoir le client... généralement dans notre cabinet d'avocat et
donc ça sera vous lui vendez du syllogisme.
On va lui vendre du syllogisme. Alors on va pas lui vendre que ça. On va lui vendre une stratégie. On va essayer de comprendre ce qu'il veut et je pense que c'est important. Lorsqu'on veut choisir une stratégie, la première chose à savoir, c'est de connaître la volonté du client. Et une fois qu'on connaît la volonté du client, cela va nous permettre de l'axer devant telle procédure ou une autre, ou même peut-être de le dissuader d'aller vers le juge. On peut lui dire, mais je pense que votre solution peut s'arranger autrement.
Et est-ce que vous pouvez lui dire qu'il n'y a pas besoin de vous ?
Alors, j'éviterai quand même.
Envie d'offrir une prestation. Mais voilà, si c'est, je viens vous voir en disant la machine à laver est en panne et mon vendeur ne veut pas me la réparer et que vous allez me présenter votre note d'honoraire qui sera d'un montant supérieur, ce qui est parfaitement normal parce que je considère que vous allez passer du temps dessus, mais qui sera supérieur au montant de ma machine à laver d'occasion. Là, vous allez peut-être dire, il y a peut-être moyen de faire plus simple.
Alors, effectivement, alors, déjà au-delà de ça, on a une déontologie et donc c'est vrai que l'avocat va éviter... d'amener son client vers des solutions ou des situations qui pourraient être dommageables pour lui. Mais il est vrai qu'on a des procédures dans lesquelles on peut parfaitement aller voir un juge sans avoir besoin de la représentation d'un avocat. Vous avez notamment la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe.
Voilà, donc on peut faire simple. Ok, donc vous êtes avocat, finalement, stratégie, on va au procès. Premier acte, qu'est-ce
qu'on fait ? Premier acte, c'est notamment la rédaction d'une assignation.
Okay. C'est quoi une assignation ?
Alors, l'assignation, c'est un acte juridique qui va être signifié par un huissier de justice. Et en fait, si vous voulez, le contenu de cette assignation, ça va être le contenu des griefs de notre client à l'égard de l'adversaire.
Donc, c'est le premier acte de la procédure. On commence le procès assignation. Ensuite, phase 2. Est-ce qu'on déroule de l'assignation au juge et est-ce que le juge dit « Ah ben, vous avez raison, vous avez tort » ou est-ce qu'il va se passer quelque chose entre-temps ?
Absolument pas. Il y a un débat judiciaire. Qui va s'élever, et notamment, il va y avoir des échanges, ce qu'on appelle des échanges d'actes de procédure, des échanges de conclusions.
Conclusion, c'est c'est les écrits dans lesquels chacune des parties exposera ses arguments.
Exactement.
Donc, il va y avoir des échanges. Et alors, ces conclusions, les parties les transmettent au juge, ou est-ce qu'elles se les échangent entre elles ?
Alors, elles se les échangent entre elles, mais si on est devant le tribunal de grande instance et donc une procédure écrite, ça sera via le RPVA.
Oui,
on
s'en fout, c'est grave.
Et donc, le juge sait qu'il y a des échanges. Le juge sait qu'il y a des échanges.
Et pourquoi il y a des échanges ? Pourquoi c'est nécessaire de... Après tout, c'est le juge qui détient, qui donnera la décision. Donc, pourquoi est-ce que les parties s'échangent leurs écritures ?
Pour un principe essentiel. Peut-être que Marie pourra...
Vas-y, Marie, oui, ça va vous parler trop, là. C'est les avocats, ils parlent tout le temps.
C'est pour respecter le principe qui s'appelle le principe du contradictoire.
Voilà. Exactement. Qui sert à garantir la loyauté des débats, mais pas seulement. Parce que pourquoi nous on est trois là aujourd'hui, après tout, ce que je raconte, je pourrais le raconter tout seul.
Ce qu'on vient considérer en fait dans le procès, que la vérité va être collective et qu'on est meilleur à plusieurs qu'on l'est tout seul.
C'est un chemin vers la vérité. Alors après, on peut dire ça avec des grands mots, c'est les bénéfices, la dialectique, etc. Mais c'est l'idée simple que si on échange, vous voyez, ne serait-ce que tout à l'heure l'échange qu'on a eu sur les normes, ces hésitations sur normes générales et abstraites, le fait d'être à plusieurs, on se dit que voilà, peut-être seul on avait des certitudes, à trois on a un peu moins de certitudes et peut-être qu'on aura des chances d'avoir une bonne solution. Donc, conclusion, après audience, plaidoirie, ça sert à quelque chose une plaidoirie?
Alors, la plaidoirie...
On s'est tout dit par écrit finalement.
Effectivement, mais il faut savoir que de manière générale, la plaidoirie devient de moins en moins importante. Alors ça dépend si on se trouve en matière civile ou en matière pénale. Aujourd'hui on est en matière civile et l'intérêt d'une plaidoirie, c'est de venir présenter au juge des éléments qu'on considère comme étant très importants. Alors, on considère, nous, avocats, lorsqu'on rédige des conclusions, que tout est important. Mais on a rédigé 40 à 50 pages de conclusions. Et l'objectif, c'est venir à l'audience pour attirer spécialement l'attention du juge sur des éléments qu'on considère comme étant essentiels. On dit, monsieur le juge, moi, je pense que dans les 50 pages de conclusions, ça, c'est
ça
important.
Ça rend les choses vivantes. Et, bon, quelque part, on peut faire un parallèle entre le cours écrit et le cours oral. Finalement, tout se trouve dans l'écrit. Et malgré tout, les étudiants viennent au cours, enfin pas tous, mais ceux qui viennent considèrent qu'il y a une utilité à suivre le cours oral parce qu'il y a cet effet d'impression qu'on va donner à l'oral.
Exactement.
Il se passe en tout cas, et c'est compliqué d'ailleurs à expliquer, mais il se passe des choses à l'oral qui ne passent pas à l'écrit. C'est un mystère dont le droit tient compte. Audience, après on peut se dire, bon, assignation, conclusion, audience, le jugement va vite sortir. Non, il y a une phase de délibéré. Et d'ailleurs, la phase de délibérer, elle se fait comme on est en train de faire ici, c'est des échanges entre les magistrats pour trouver la bonne solution. Cette phase de délibérer, bon, c'est une phase au cours de laquelle on va interpréter, on en a déjà parlé la semaine dernière, on va apprécier les preuves.
On va apprécier les éléments de preuve. Les éléments de preuve, c'est vraiment une phase essentielle. Alors, il faut savoir que dans un procès, ce n'est pas au juge de produire les preuves.
Civil, hein.
Ouais. C'est civil. La preuve incombe aux parties. Et d'ailleurs, on dit assez simplement en procédure civile que le juge n'a pas à pallier la carence des parties sur ce terrain-là. Et donc, l'avocat va, lui, développer ses conclusions et va appuyer, si vous voulez, la demande de son client sur un certain nombre de preuves. Alors, on peut avoir le SMS, des emails,
des emails, beaucoup, hein, maintenant.
On peut vraiment prouver par tout moyen. Voilà.
On a les faits, on a la règle. Il faut qualifier.
Qualifier.
Ah, ah.
Qualifier, c'est dur, une fois qu'on a interprété, c'est-à-dire une fois qu'on a bien défini les contours de la règle, les contours de la catégorie juridique, eh ben on va essayer de faire rentrer les faits dans cette catégorie.
Ouais, alors là, on a hésité tout à l'heure, on s'est dit est-ce qu'on va en parler ou pas, mais on va quand même...
Parlons-en.
On distingue quand même, on va voir, mais on va certainement un peu hésiter, on distingue entre ce qu'on peut appeler une qualification inductive ou une qualification déductive. Mm-hmm. Vous vous sentez d'expliquer une qualification inductive, Marie ?
Une qualification inductive, c'est plutôt une qualification qui va partir du concret, qui va partir des faits pour les faire remonter au droit. Donc, traditionnellement, c'est plutôt la qualification qui a lieu en droit public, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Un exemple en droit privé, ça serait par exemple vouloir qualifier l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, on n'a pas de critères clairs et objectifs qui nous permettent de déterminer ce que c'est. On va partir d'une situation de fait, et derrière, on va essayer de dégager un faisceau d'indices nous permettant de qualifier que l'intérêt de l'enfant est caractérisé ou non.
On part des faits pour remonter à la qualification. Qualification déductive, Emmanuel.
Bon, alors, je pense que Monsieur Lagarde, vous l'expliquerez beaucoup mieux que moi. On peut parler de la faute, par exemple,
eh ben,
de la faute professionnelle.
Oui. Si, bah sur une faute professionnelle, on va se dire, donc on va appliquer 1240, comment on va définir la faute professionnelle? On va dire, une faute professionnelle, c'est quoi quel aurait été le comportement du professionnel diligent? Donc on va se dire, c'est quoi un comportement du professionnel diligent? Et donc on va partir de la norme qu'on va développer pour essayer d'arriver au plus près de la situation dont on a à connaître. Bon, maintenant, c'est une distinction qu'on fait en théorie, c'est une distinction dont on peut avoir l'intuition pratique, c'est pas gravé dans le marbre. En tout cas, il y a un moment où il faut faire coller la règle générale et abstraite à des faits qui sont concrets pour arriver à la fin à une norme concrète. Et là, on peut se dire, on est arrivé au bout du chemin, au bout du tunnel. Eh bien non, parce qu'il ne suffit pas au juge de dire les conditions d'application de la règle sont réunies, boum, j'applique les faits. Les faits, il peut se mesurer. Et là,
il peut se mesurer et il faut aussi pouvoir quantifier éventuellement.
On parle d'une action responsable. Dans une action responsabilité, à la fin, il va falloir mesurer les dommages et intérêts. Et ça, c'est pas combien vaut un bras, combien vaut un pont de mur cassé.
Exactement. Le juge est un technicien du droit, mais c'est pas un homme de l'art ou un technicien.
Oui.
Généralement, si vous voulez, dans les procès, et même cela arrive souvent en matière de droit immobilier, on fait appel à un technicien, ce qu'on appelle un expert judiciaire, qui lui, c'est son domaine, particulier. Imaginons que vous avez une fissure sur le mur de votre salon. C'est pas le juge qui va vous dire combien va coûter la réparation de cette fissure. Il va falloir désigner un expert judiciaire qui lui va chiffrer.
Je vous interromps, pardon, mais tout ça pour dire, vous avez tout le chemin et tout le temps que ça prend pour arriver à une décision de justice dont on a dit au départ qu'elle est un syllogisme judiciaire, une simple application d'une règle de droit. Eh bien non, une décision de justice, ce n'est pas comme un radar qui prend une photo, qui vous dit si vous êtes en contravention ou non. C'est tout un long processus d'échange, de réflexion, de discussion pour arriver à la fin à une norme concrète qui certes applique la règle, mais qui le fait, qui prend son temps, ce qui fait que... D'ailleurs, certains disent finalement, en fait, le juge n'applique pas le droit, il rend sa décision en équité, il habille. Bon, on a déjà un peu dit ce qu'il fallait en penser, mais ce qui reste malgré tout, c'est qu'il y a un aléa judiciaire. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que l'aléa, comment vous expliquez l'aléa judiciaire à un de vos clients?
Alors, on leur dit, l'aléa judiciaire, peut-être en un mot, on leur dit aux clients que tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça que l'avocat est une obligation de moyens et pas de résultat.
Alors ça veut dire quoi, obligation de moyens, obligation de résultat?
Alors, l'obligation de moyens, c'est qu'on va tout mettre en œuvre pour réussir à obtenir gain de cause, alors que l'obligation de résultat, il faut absolument gagner. C'est-à-dire que le client pourrait engager ma responsabilité si je n'ai pas gagné le procès, ce qui n'est pas le cas. Je peux perdre mon procès et ne pas voir mon client engager ma responsabilité et être payé de mes prestations. Ça, c'est important. Mais ce qui est important, et je rebondis sur ce que vous disiez, M. Lagarde, c'est que finalement, cet aléa, c'est un peu l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est-à-dire qu'on peut avoir des textes qui sont extrêmement clairs. On a une situation de fait qui est extrêmement claire. Et on peut se dire, en regardant cela, qu'on ne voit pas comment on peut perdre. Mais on peut se retrouver, des fois, devant des décisions surprenantes, et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'a fait le juge. Est-ce qu'il a vraiment appliqué la règle de droit? Alors, est-ce qu'il a bien pris en compte les faits?
Oui, mais je remonte pour. Alors, parce que c'est un peu déstabilisant de ce que vous dites, on l'entend très souvent, et c'est juste, mais c'est déstabilisant pour un étudiant de se dire je vais apprendre une discipline qui finalement est imprévisible. Bon, c'est quand même que. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des points sur lesquels il y a forcément des marges de manœuvre, parce qu'il y a des marges d'appréciation. Sur la preuve des faits, le juge apprécie les preuves, et ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, il y a une marge d'appréciation. Sur la qualification, il y a aussi une marge d'appréciation, puis sur l'interprétation, il y en a une aussi. Bon, nous avons vu qu'à la fin, et c'est des choses dont nous reparlerons, il y a une unification de l'interprétation des règles, mais oui. Malgré tout, tant qu'on est à l'échelle 1, dans la hiérarchie judiciaire, on sait très bien que l'interprétation de la règle peut varier d'une juridiction à l'autre. Donc oui, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter cet aléa? Qu'est-ce que vous conseilleriez?
Nous, on a un moyen assez classique qu'on propose aux clients, et ça dépend aussi du litige, mais on peut lui proposer des modes alternatifs de règlement des différents.
Alors c'est quoi un mode alternatif? C'est-à-dire qu'on va se battre dans la cour, on fait un duel?
C'est un peu plus encadré que ça. On a plusieurs types de modes alternatifs, mais pour citer peut-être les plus connus, on a la médiation.
Mais même, avant de citer les plus connus, qu'est-ce qui change? C'est-à-dire qu'en fait, on dit au juge, votre décision, on ne sait pas de quel côté ça va tomber, donc on va l'écrire nous-mêmes.
On va gérer le risque. C'est un peu ça. On va gérer le risque.
Mais on écrit son propre jugement. C'est ce que disait je ne sais plus qui, peut-être pas Bigot Préameneux, mais c'est la transaction, c'est le jugement que les parties se rendent à elles-mêmes. Au fond, si l'aléa judiciaire est trop important, autant se mettre d'accord, avec l'aide des avocats, sur une solution acceptable. Et d'une certaine manière, les parties vont définir elles-mêmes le droit qui va s'appliquer à elles. Et cette pratique de la médiation, nous allons voir qu'elle est devenue, elle s'est généralisée, elle a donné lieu à des normes générales, et c'est maintenant le temps de voir comment les normes individuelles, comment les pratiques individuelles peuvent être à l'origine de normes générales. C'est le moment pour que nous allions plus loin. Allons plus loin, les normes individuelles. Les normes individuelles, donc, sont, nous le disions à l'instant, caractéristiques de ce que les individus sont aptes à se donner eux-mêmes leurs propres droits. Ce que nous voudrions montrer dans cette troisième séquence sur Allons plus loin, c'est que l'existence de ces normes individuelles montre que le droit peut venir des individus et que c'est l'objet de cette troisième séquence, les individus, par leur pratique, peuvent susciter des inclinations des normes générales, voire la construction de normes générales. Et donc, premier point, nous voudrions montrer que le législateur qui pose des normes générales sait adapter la norme générale en considération de pratiques individuelles, qui sont des pratiques individuelles qui tendent à être d'usage. En tout cas, le législateur considère qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de ce que font les individus. Alors, on a un exemple qui, évidemment, fait réagir beaucoup en ce moment, qui est celui, dit pudiquement, de l'optimisation fiscale. À vous de jouer, Marie.
Et parfois dit par nos amis québécois de l'évitement fiscal. Je vous passe l'accent. L'optimisation fiscale, en fait, ça va être des comportements de contribuables. Les contribuables sont les citoyens qui payent l'impôt, qui vont être légaux, mais qui vont permettre de diminuer drastiquement la charge de l'impôt, parfois jusqu'à zéro.
Ah oui, ça
plaît assez peu. Vous avez un exemple au législateur. On peut imaginer une fameuse entreprise qui gère des moteurs de recherche en Californie, par exemple.
On ne l'admet pas parce qu'on refuse de faire de la pub. Voilà. Mais donc, continuez.
Parce que ça, c'est leur business à eux.
Voilà.
Et donc, cette fameuse entreprise de moteurs de recherche réussit, alors même qu'elle a une grande activité économique en France, à ne pas payer d'impôts en France ou si peu.
Mais c'est de la fraude, ça ? Non ?
Et en fait, non. C'est là que le bât blesse, ça n'est pas de la fraude. Parce que toutes les activités juridiques que met en œuvre cette société pour ne pas payer d'impôts sont légales. En fait, cette société, elle va venir créer des personnes morales à l'étranger, d'autres en France. Elle va conclure des contrats.
C'est quoi des personnes morales ?
Personnes morales, c'est des sociétés, par exemple. Donc des sociétés, des entreprises qui ont la personnalité morale.
Oui. Donc là, on le dit vite, on y reviendra, rassurez-vous. Mais personne morale, on l'utilise tout le temps. On a une entreprise qui forme un groupe, une entité, on va faire comme si c'était une personne physique. Voilà, on fait comme si c'était une unité, donc on va dire c'est une personne morale. Ok, je vous ai interrompu, mais c'est important parce qu'on entend une personne morale, on se dit, voilà, vous retenez entreprise, société, groupement, considéré comme une personne. Donc, alors, fraude fiscale, non, vous me dites, parce qu'il y a effectivement...
Et donc, pas de fraude, parce que pas de fictivité, c'est-à-dire que notre entreprise qui est établie en Californie, qui a une activité en France, elle va réussir à localiser les profits générés en France, artificiellement, mais légalement, dans d'autres juridictions.
D'autres États. Bon, alors ce qui se passe, c'est que la grande entreprise californienne, elle n'est pas la seule à faire ça. Elles sont un certain nombre à le faire. Bon, on peut déplorer, mais c'est comme ça. Et alors, qu'a décidé de faire le législateur par rapport à ces dispositifs qui ne sont pas de la fraude fiscale, hein, faut pas se tromper, qui sont de l'optimisation.
C'est ça. Ces dispositifs sont tout à fait légaux. En fait, ils résultent de montages, qu'on appelle des montages fiscaux. Et en fait, le législateur est intervenu. C'est très difficile de rendre illégaux ces dispositifs parce qu'en fait, c'est seulement des contrats classiques, des personnes morales classiques qui n'ont rien d'illégal dans leur objet en elles-mêmes.
Oui, puis on risque de faire fuir de France, finalement.
Comment
le droit réagit pour faire en sorte d'avoir quand même un œil sur ces dispositifs, tout en les laissant, disons, prospérer,
on va dire. Et donc le législateur est venu obliger les personnes qui édictent, qui créent ces montages, de les déclarer à l'administration fiscale, afin que l'administration fiscale puisse les étudier, et étudier ceux qui, en fait, sont frauduleux, en ayant toutes les clés dans leurs mains.
Donc oui, c'est une façon de dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais
attention,
vous êtes dans l'œil du cyclone et si ça dérape, on est là pour vous tacler.
Laissez prospérer, quand vous dites laissez prospérer, monsieur Lagarde, tout en encadrant, ça me rappelle le numérique.
Oui.
Le numérique, notamment sur le téléchargement. On n'est pas venu interdire finalement ce téléchargement, mais on est venu l'encadrer.
On peut aussi citer l'exemple du lobbying, ou lobbying qui peut paraître être une pratique pas très démocratique, puisque des intérêts des intérêts privés se réservent une place privilégiée auprès d'acteurs publics, mais c'est une pratique que toutes les entreprises adoptent, pas que les entreprises,
d'ailleurs
les
ONG,
les associations. Et donc on a dit finalement, et d'ailleurs les responsables publics considèrent qu'il n'est pas finalement inutile de discuter avec ces intérêts privés, de dire c'est possible, mais vous vous déclarez comme lobbyiste, et au moins quand vous parlez auprès de partenaires publics, nous savons qui vous êtes. Quels sont vos intérêts? Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les entendre, mais au moins, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Donc ça, ce sont des dispositifs d'adaptation. On a vu aussi, bon, et quelque part, c'est ce que les juristes veulent faire savoir en donnant une place aussi importante à la coutume, mais la coutume, c'est quelque chose d'assez ancien. Il reste qu'aujourd'hui encore, nous avons et c'est le deuxième point de cet « allons plus loin », nous avons des configurations dans lesquelles il est évident que ce sont les pratiques individuelles qui donnent naissance à des dispositifs juridiques de portée générale. Alors, justement, vous, Emmanuel, qui travaillez dans l'immobilier, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que les normes générales que vous appliquez, elles viennent d'où?
C'est ça qui est un peu frustrant, si vous voulez, c'est que vous faites un Master 2 en théorie et pratique du procès et un autre Master 2 en droit privé général, et vous vous rendez compte que finalement, dans l'exercice professionnel, vous allez découvrir des nouvelles choses que vous n'aurez peu ou prou jamais vues à la faculté. Alors, je ne dis pas que la faculté ne sert absolument à rien.
J'ai quand même enseigné, donc voilà, donc il nous aime bien encore. Voilà.
Mais si on prend l'exemple du droit immobilier, vous avez notamment ce qu'on appelle les CCTP.
Ah, ça, ça doit être trop.
Ce sont des cahiers de clauses techniques particulières.
Oui.
En fait, ce sont des cahiers qui vont être. Ce sont des normes qui sont créées, mais par les professionnels de l'immobilier. Et vous avez des normes spécifiques pour l'édification d'un immeuble, et lorsqu'il va y avoir notamment un litige, le juge va appliquer ces normes qui ont été créées par la société civile, par les professionnels qui exercent dans le cadre de l'immobilier, et le juge va lui donner une valeur comme si c'était une norme générale, comme on l'a dit tout à l'heure,
C'est une norme générale, ça devient la norme supplétive, mais qui émane de la pratique. Bon, et quelque part, c'est assez normal, ce sont des normes tellement techniques que, même si le législateur et le pouvoir réglementaire adore rentrer dans les détails, il y a un moment, sur l'immobilier, ça doit l'ennuyer, et là, il a laissé faire les professionnels qui ont édicté leurs propres normes techniques, et quand le juge voudra savoir si oui ou non les professionnels se sont bien comportés, la norme générale sur laquelle il s'appuiera émanera des individus, des professionnels de la profession, comme disait un cinéaste. Autre exemple, on parlait tout à l'heure des modes alternatifs.
Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est une question actuelle. Vous avez, alors, tous les étudiants doivent, je pense, connaître cette loi, en tout cas, ils doivent rapidement aller la regarder. C'est la loi de programmation du 23 mars 2019. Cette loi...
2018. Ah, voilà, il est plus à l'université. voilà, comme quoi ça sert à quelque chose.
Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas l'année de cette loi, c'est simplement de retenir, alors sur la question des modes alternatifs, la médiation et la conciliation, à partir du 1er janvier...
On passe par une voie amiable pour résoudre son différend, pas par la voie judiciaire.
Donc. Exactement. Et à partir du 1er janvier 2020, ces modes alternatifs vont devenir des préalables obligatoires avant de saisir un juge.
Ah oui.
C'est-à-dire que si vous allez voir un juge et que... alors, ça dépend des matières, hein, pas rentrer dans le détail, mais si vous allez voir un juge et que vous assignez, notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, devant le juge, et si vous ne justifiez pas avoir réalisé une mesure de médiation ou de conciliation, le juge pourra considérer que, à ce stade, votre action est irrécevable.
Oui, donc ça c'est intéressant. Mais là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, il nous parle de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec les normes individuelles. Ben si, parce qu'en fait, si le législateur impose à partir du 1er janvier 2020, voilà, des bêtises, c'est comme les erreurs sur les copies d'étudiants, après on finit par plus savoir son orthographe. Enfin, voilà. C'était une petite phrase de vieux prof. Alors, si le législateur impose ce dispositif en 2020, c'est qu'il peut l'imposer. Et s'il peut l'imposer, c'est que la pratique l'a précédé. Et qu'en fait, la pratique des avocats s'est considérablement développée. Pas simplement d'ailleurs la pratique des avocats, que ce soit en matière familiale, avec la médiation familiale, que ce soit dans les dispositifs, dans les secteurs comme celui des assurances, des banques. Les pratiques ont mis en place des dispositifs de médiation qui fait que le législateur peut à un moment dire « ça fonctionne ». Donc les choses fonctionnent de telle manière que nous pouvons maintenant passer en phase, je dirais, de législation générale, de règles générales, qui imposent ce dispositif comme étant une solution possible au procès. Et de fait, il est certainement plus rapide, plus sûr, moins coûteux, moins dommageable de passer par une médiation que de suivre une procédure qui sera beaucoup plus longue que celle de cette émission dont nous arrivons à présent au terme. Merci infiniment de votre attention et nous nous retrouvons pour parler bientôt de la jurisprudence. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.